Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'histoire de l'Australie. Plus précisément, vous allez écouter la deuxième partie d'une mini-série que nous consacrons à l'histoire de l'immigration en Australie. Cette fois-ci, on s'intéresse à une période allant grosso modo des tout débuts de la Fédération australienne en 1901 jusqu'aux années 50, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, une période résumée dans les livres d'histoire en Australie par celle de la politique de l'Australie blanche. Comme d'habitude, nous avons avec nous Romain Fathy, historien à l'Australian National University, pour nous aider à y voir plus clair sur tout ça. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de rentrer véritablement sur la partie migratoire de cette période de l'histoire australienne, je viens de le mentionner, en 1901, le 1er janvier, l'Australie prend un tout petit peu ses distances avec la Grande-Bretagne et devient une fédération, c'est-à-dire que les différentes colonies qui se trouvaient en Australie, qui étaient toutes rattachées à l'Angleterre, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes visions ni les mêmes points de vue sur certaines choses, décident de se rassembler donc au sein d'une fédération. Pourquoi ?
Alors, juste un petit rappel, hein, donc ces colonies britanniques sur le territoire australien sont fondées progressivement. Nouvelle-Galles du Sud 1788, Tasmanie 1825, Australie-Occidentale 1829, Australie-Méridionale 1836, Victoria séparée du Nouvelle-Galles du Sud en 1851 et le Queensland en 1859. Donc vous avez des confettis sur le territoire australien. Et ces confettis, c'est un terme peut-être un peu négatif, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des colonies qui sont éclatées, chacune avec leur propre parlement, effectivement rattachées au droit et à la couronne britannique. Et ces colonies décident de se fédérer, hein, un peu comme les États aux États-Unis, qui sont une série d'États dans une fédération. Et donc, cette fédération a lieu, est effective à partir de janvier 1901, et elle occupe les débats politiques pendant de nombreuses années, puisque chacun jusqu'à présent faisait un peu ce qu'il voulait. Et en parallèle de ça, il faut ajouter que la population en Australie a grandi énormément, ce qui légitime un peu le fait d'occuper ce territoire et d'en faire un réel pays unifié. En 1810, vous avez à peu près 10 000 personnes blanches en Australie, lors du tout début de la colonisation, 400 000 à peu près en 1850, et vous êtes à quasiment 4 millions, hein, 3,8 millions en 1900. Donc une expansion colossale de la population qui se fait évidemment au détriment des populations aborigènes. Qu'est-ce qui les pousse à se réunir ? Plusieurs choses. Il y a l'immigration, la défense et puis les douanes. Il faut se rappeler qu'entre chaque État, vous avez des droits de douane, donc ça ne facilite pas le commerce inter-Australie, si vous voulez. Donc, se réunir dans une fédération ferait qu'il y aurait un système fiscal un peu plus unifié. Donc, ça faciliterait le commerce, l'expansion économique de l'Australie. Premier point. Deuxième point, la défense. Si vous avez toute une petite série de colonies éloignées les unes des autres, qui, ont besoin de la Royal Navy, de la marine britannique pour se protéger, c'est assez compliqué. Vous transformer en fédération fait que, via un système fiscal unifié, vous allez pouvoir développer votre défense. Alors, ça prendra bien longtemps, mais ce processus est amorcé. Et enfin, troisièmement, l'immigration. Parce que, comme on l'a dit, l'immigration est à la base du développement colonial australien. Et ces États-là sont dans une situation différente. Si bien que, à un moment où le Queensland a besoin d'immigration, à la fin du 19e siècle, le Victoria n'en veut plus parce que la ruée vers l'or s'est terminée, crise économique majeure, et beaucoup de personnes à la recherche d'un emploi. Et donc, si le Victoria dit « moi je ne veux pas d'immigration, je ferme mes frontières », bah oui, mais si vous débarquez dans le Queensland, il vous suffit de marcher ou de prendre le train ou de prendre un cheval. Donc, l'Australie n'est pas hermétique, ce qui fait que vous avez des mouvements de population à l'intérieur de l'Australie, qui fait que l'immigration en Australie n'est pas régulée, et en particulier l'immigration non blanche qui va être interdite dans certains États, alors que d'autres États vont en avoir besoin, comme le Queensland par exemple. Donc en se fédérant, vous allez avoir un gouvernement fédéral qui va pouvoir mettre en place des lois d'immigration.
Alors, vous mentionniez à l'instant l'immigration non blanche. Dans l'épisode précédent, on a également fait référence à la ruée vers l'or qui est intervenue vers la fin du 19e siècle. Et donc cette ruée vers l'or, elle n'a pas attiré que des Européens, il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus d'Asie.
Oui, tout à fait. De nombreuses personnes sont venues tenter leur chance dans les mines d'or australiennes, en particulier dans le Victoria. Hein. Si vous êtes dans le Victoria ou si vous y passez, je vous encourage à aller à Ballarat parce que vous êtes dans une petite ville rurale où vous avez des bâtiments absolument magnifiques qui datent de cette période, parce que la richesse qui est extraite des sols, des souterrains à ce moment-là, est absolument exceptionnel. Donc aujourd'hui, c'est une toute petite ville qui pourtant a des bâtiments absolument magnifiques parce que les gens ne savaient plus quoi faire de leur argent tellement il y en avait. Bon, ça, c'est un point séparé. Vis-à-vis de l'immigration, ce qui se passe, c'est que effectivement, vous avez des Allemands, des Américains, et puis beaucoup de Chinois qui viennent s'installer dans ces mines. Au grand dam des autorités du Victoria. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'Australie, peu importe la colonie, a une peur fondamentale et encore aujourd'hui une peur structurelle de l'invasion. Ils ont une espèce de complexe de Masada. Et pourquoi ils ont peur d'être envahis? Parce que ben, c'est ce qu'ils ont fait. Si vous-même vous avez volé la terre de quelqu'un, donc la terre des aborigènes, vous avez probablement peur qu'on vienne vous la prendre à vous également, puisque c'est quelque chose qui a été fait. Donc c'est de l'ordre du réel. Alors, au début de la colonisation britannique, hein, les Australiens ont peur de la France, grand empire colonial, on l'a rappelé l'épisode précédent, dans le Pacifique, par ailleurs. Et puis, les Australiens ont peur des Russes. Vous avez toute une série de forts qui ont été construits à la fin du 19e siècle pour se protéger des Russes, comme si les Russes allaient envahir l'Australie à la fin du 19e siècle. Mais structurellement, c'est très important. Et puis, il y a l'idée à l'époque, vous me pardonnerez l'expression, c'est un terme racial, racisé d'époque, de péril jaune. Le fait que l'Australie soit dans un endroit non européen, le Pacifique, et que potentiellement, elle pourrait être envahie de personnes asiatiques. Et ça, la plupart des Australiens qui sont britanniques, hein, avant la Première Guerre mondiale, l'Australie, en termes ethniques, est plus blanche que le Royaume-Uni lui-même, qui avait commencé à un peu ouvrir ses frontières en termes d'immigration. Donc c'est un bastion blanc dans le Pacifique qui ne veut pas entendre parler d'immigration autre que l'immigration britannique des îles britanniques.
Et cette peur à la fois de l'invasion et certains diraient aujourd'hui du grand remplacement est mise en œuvre très rapidement une politique migratoire officielle qu'on appelle la politique de l'Australie blanche.
Oui, alors une des premières lois votées par le nouveau Parlement australien, donc le Parlement fédéral qui s'établit à partir de 1901, une des premières lois votées, c'est Immigration Restriction Act, la loi de restriction d'immigration. Et ce que cette loi met en œuvre est assez simple, ça se résume comme ça. Si vous n'êtes pas blanc, vous ne pourrez pas émigrer en Australie. Et par ailleurs, si vous n'êtes pas blanc, enfin, si vous êtes blanc, mais vous n'êtes pas de l'Empire britannique ou des îles britanniques, on va rendre les choses très compliquées pour vous. Donc, la loi qui est mise en place est une loi ouvertement raciste qui permet de sélectionner les candidats à l'immigration sur leur couleur de peau. Et comme l'Australie fait partie de l'Empire britannique, elle est fédérée, mais elle fait partie de l'Empire britannique, et que normalement, théoriquement, à l'intérieur de l'Empire britannique, vous ne pouvez pas faire de distinction entre les sujets de Sa Majesté, eh bien, pour ne pas, par exemple, avoir des Indiens qui sont aussi sujets britanniques, l'Australie met en place toute une série de lois compliquées pour limiter l'immigration, dont le test de dictée. À l'arrivée, un officier de l'immigration, un douanier, peut vous demander de vous asseoir et d'écrire une dictée dans une langue européenne. Donc, comme on ne peut pas dire on va refuser les sujets britanniques non blancs, on va vous forcer à connaître une langue européenne. Donc, si par exemple vous connaissez l'anglais, mais qu'on veut toujours pas de vous, on va vous faire écrire en allemand. Si vous n'arrivez à faire de l'allemand, eh ben on va vous faire faire du français jusqu'à ce que vous trouviez en situation d'échec et qu'on puisse vous renvoyer chez vous. Alors, c'est tellement gros, si vous voulez, qu'en fait, eh bien, les personnes qui savent qu'elles ne seront pas accueillies en Australie n'essayent même pas, finalement. Donc, par un système de lois assez complexe, l'Australie fait que, eh bien, voilà, si vous n'êtes pas des îles britanniques et que vous n'êtes pas blanc, ça va être très, très, très compliqué pour vous de venir vous installer en Australie.
Alors donc, à travers cette politique, les autorités australiennes sont très sélectives pour employer un euphémisme sur qui peut rentrer et s'installer dans ce pays. Et dans le même temps, elles continuent à blanchir autant que possible le pays et notamment à s'occuper, entre guillemets, du problème aborigène.
Oui, la question de l'immigration en Australie, au moins au 19e siècle et même courant du 20e, elle est intimement liée au traitement aussi qui est réservé aux populations aborigènes. Il faut bien resituer ce moment. Ce qu'on vient d'expliquer est probablement choquant, enfin j'espère que c'est choquant pour la plupart des auditeurs, mais ça correspond à un moment historique où l'eugénisme et où le racisme où la classification des races était quelque chose de commun au sein des populations blanches qui ont établi ces catégories, où elles se sont mises bien évidemment tout en haut. Et donc ces politiques raciales ne sont pas l'apanage de l'Australie. D'autres colonies, nouvelles colonies le font aussi, et la plupart des empires impériaux sont construits sur cette hiérarchie. En revanche, ce qui en Australie est assez extrême, c'est que non seulement cela s'applique aux futurs migrants, mais que la population aborigène va être progressivement considérée comme une espèce en voie de disparition aidée, hein, puisqu'il y a des massacres, puisqu'il y a des guerres pour prendre possession de lieux, puisqu'il y a des maladies. Mais là où les enfants, par exemple, que ce soit consenti ou du viol, vous aurez un enfant entre une personne blanche et une personne aborigène. Dans la plupart des États, vous allez avoir ce qui s'appelle le protecteur des aborigènes, hein, ce qui est un mot absolument aberrant quand on sait ce qui a été fait,
Assez orwellien, oui.
voilà, qui va placer ses enfants pour que ces enfants à moitié blancs, à moitié aborigènes, soient éduqués à l'occidental et deviennent blancs. Parce que c'est un gène récessif et que, à partir de 3 générations, une personne qui était aborigène est totalement blanche. Donc vous avez toutes ces études pseudo-scientifiques et totalement racistes, accompagnées de craniologie, etc., qui fait que, voilà, on essaye aussi de blanchir, et en fait, c'est un génocide programmé, si vous voulez. Donc, la politique de l'Australie blanche, elle se définit à la fois à l'extérieur des frontières, les personnes que l'on choisit pour venir en Australie, et elle a une application également à l'intérieur des frontières australiennes, où effectivement, à petit feu, la population aborigène est étranglée.
Cette période du début du XXe siècle, c'est aussi celle durant laquelle on voit émerger en Australie un véritable sentiment d'identité nationale à travers notamment l'engagement d'Australiens durant la Première Guerre mondiale. C'est Anzac Day, qui est à partir de 1915, la bataille de Gallipoli. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes que nous vous invitons à écouter. La question que je me posais, c'est donc l'émergence de cette identité nationale distincte de l'identité britannique. Est-ce que ça participe à ce racisme déjà omniprésent dans la société australienne ou pas?
Oui, complètement. Et il y a un collègue historien qui l'a bien montré dans son livre Best We Forget. On ferait mieux d'oublier. L'auteur, c'est Peter Cochrane, qui a un très très bon livre, où il montre le lien entre l'ANZAC, entre l'engagement australien dans la Première Guerre mondiale et la défense de la race blanche. Et c'est tellement partout dans les archives que, si vous voulez, c'est finalement pas compliqué à démontrer, mais le lien entre Première Guerre mondiale et race blanche en Australie est très important. Hein, il faut se rappeler que l'accord diplomatique qui est signé entre le Japon et la Grande-Bretagne en 1902 pour libérer un peu la Royal Navy dans le Pacifique fait bondir les Australiens. Ils ne veulent surtout pas qu'un pays asiatique gagne de l'importance dans cette zone du monde. Et puis par ailleurs, la clause d'égalité raciale qui est proposée à Versailles en 1919 par les Japonais à la suite de la Première Guerre mondiale, qui verrait émerger une puissance asiatique est absolument contestée par les Australiens dès cette époque-là. et tout l'engagement avant, pendant et Première Guerre mondiale, effectivement, l'Australie se bat pour l'Empire britannique, elle se bat pour elle-même, puisque si l'Allemagne venait à gagner, la colonie australienne s'effondrerait, puisque la majorité des liens économiques se fait avec la Grande-Bretagne. Donc l'Australie ne se bat pas dans la Première Guerre mondiale pour la liberté, la générosité d'aider les autres, absolument pas. Elle se bat pour survivre, hein, ils en ont tout à fait conscience. Et ce sont des Australiens qui ne se considèrent pas comme Australiens. Ils se considèrent d'abord comme habitants en État, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria. Ils se considèrent comme Australiens et ils se considèrent surtout et avant tout comme Britanniques, comme sujets britanniques. Et vous avez les premiers ministres de l'époque qui déclarent, voilà, nous sommes plus britanniques que les Britanniques eux-mêmes, la pureté de la race britannique est préservée en Australie, nous sommes le dernier bastion de la race britannique, etc., etc. Donc, tout le discours raciste qui émerge au courant, bien évidemment, bien avant, dans le 19e siècle, au début du 20e siècle, est totalement prévalent et a des conséquences à la fois sur l'immigration, mais sur le traitement, comme on l'a rappelé, des populations aborigènes locales. Donc oui, le racisme et la politique de l'Australie blanche, c'est totalement pertinent dans les motivations qui ont poussé l'Australie à comment dirais-je, se battre pendant la Première Guerre mondiale.
Quelques décennies plus tard, il y aura bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, mondiale, mais en Europe, on va notamment voir se développer des idéologies fascistes qui vont prendre le pouvoir. Et pourtant, l'Australie, qui, on vient de l'expliquer, a fait la suprématie de la race blanche la pierre angulaire de sa politique, est pourtant engagée aux côtés des alliés, des Anglais, des Américains, contre le nazisme. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit peu une contradiction? Est-ce que l'Australie, à cette époque, ne se trompe pas de camp?
Il y a plusieurs choses ici, c'est assez compliqué. Vous avez un livre qui a été écrit sur les nazis australiens, des gens qui soutenaient le fascisme dans les années 20 et les années 30 en Australie, ça s'appelle, je crois, Nazi Dreamtime, qui est plutôt bien fait, ce livre d'ailleurs. Mais en réalité, non, la population australienne, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, elle se conçoit également comme britannique. Donc, quand la Grande-Bretagne se retrouve en guerre avec l'Allemagne, ça ne fait aucun doute que la population australienne va défendre la mère patrie et va se défendre elle-même. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il y a une totale opposition idéologique. Alors attention, on ne peut absolument pas mettre sur le même pied l'Holocauste et l'entreprise d'extermination des Juifs d'Europe qui a été mise en place par le Troisième Reich et un cadre raciste antisémite qui existait dans de nombreux pays. Hein, je veux dire, la France avant la Deuxième Guerre mondiale, l'antisémitisme est très important en Pologne, dans plein de pays. En Australie, comment ça se manifeste avant la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, vous avez un événement très important pour les Juifs d'Europe, c'est la conférence d'Évian de 1938, où effectivement on essaie de trouver une solution au harcèlement, à la mise en camp de Juifs dans les territoires allemands et autrichiens. Et donc à cette conférence, des pays libres se réunissent pour proposer d'accueillir les Juifs qui seraient en train de fuir le nazisme. Le représentant australien à cette conférence, je le cite dans le texte, « L'Australie n'a pas de problème racial et n'est pas désireuse d'en importer un. » Alors déjà, dans quel monde il vit? Parce qu'il y a un énorme problème racial en Australie, hein, la manière dont les aborigènes sont traités, mais c'est dans le déni total. Alors vous avez des Juifs, effectivement, qui émigrent en Australie pour se protéger de la montée du nazisme, hein, parce que les lois contre les Juifs commencent très tôt, dans le milieu des années 30, et la population australienne les accueille très mal. Alors, ce sont quelques milliers de Juifs qui finalement viennent s'installer en Australie avant la Deuxième Guerre mondiale. Même en 1939, vous êtes quand même dans une situation où l'écrasante majorité des Australiens soutient la politique de l'Australie blanche. Ce qui ne veut pas dire que l'Australie n'identifie pas l'Allemagne nazie comme un réel ennemi. Non seulement parce qu'elle est en guerre contre la mère patrie, la Grande-Bretagne, mais également parce que bien qu'il y ait un substrat de racisme important en Australie, l'idéologie hitlérienne et la privation des libertés ne va pas du tout dans le sens de la conception libérale de la vie qu'on pourrait avoir en Australie. Donc oui, sur le point racisme, effectivement, il existe, mais il existe dans de nombreux autres pays d'Europe. Certains finiront par collaborer avec les nazis, mais les Allemands et les Australiens sont naturellement, entre guillemets, ennemis du fait qu'ils ne soient pas dans les mêmes empires.
Eh bien, merci beaucoup Romain Fati pour nous avoir éclairé sur cette deuxième partie de notre série consacrée à l'immigration australienne. Comme la dernière fois, on va vous proposer une œuvre pour en savoir plus sur cette époque, en tout cas sur un aspect parmi les nombreux qu'on a abordés au cours de cet épisode. Là encore, il s'agit d'un livre qui a été adapté en film, un très beau film qui, me semble-t-il, est également disponible sur Netflix, qui s'appelle Rabbit Proof Fence. Et pour le résumer très rapidement, ça nous raconte un petit peu justement ce qu'on appelle les générations volées, c'est-à-dire des enfants aborigènes ou métis qui sont arrachés à leur mère aborigène pour être placés dans des institutions religieuses et blanchis, entre guillemets.
Oui, c'est un très bon film qui est assez difficile à regarder, parce qu'en fait, derrière la création artistique d'un film et derrière des images difficiles, vous avez une réalité, celle de dizaines de milliers d'enfants aborigènes qui ont été pris de leur famille pour être placés dans des institutions ou dans des familles blanches pour devenir occidentaux. Et ça, c'est quelque chose qui a été reconnu hein, par le gouvernement australien, qui s'est officiellement excusé en 2007 ou 2008, de mémoire, ce sont les excuses du Premier ministre Kevin Rudd. Donc oui, c'est un très beau film par ailleurs, mais c'est un film difficile.
Très bien, eh bien, merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode. Ce sera le troisième de notre série sur l'histoire de l'immigration en Australie et on s'intéressera donc aux années immédiatement après la Seconde Guerre mondiale et comment l'Australie commence à cette période à opérer un changement dans sa politique migratoire, à être un peu plus ouverte aux différences, on va dire. Merci beaucoup.
Je vous remercie. Au revoir.